Avec Jérémy Raville, 16h30. Alors, Armia, 2 ans avec le Canadien pour un salaire qui est pas mal mieux que ce qu'il gagnait.
Oui, c'était 925 000, c'est maintenant 2,6 millions. Disons que je vais appeler son agent, je trouve que c'est une bonne négociation. Ça a du bon sens. Donc, contrat de 2 ans, 5,2 millions au total pour Joel Armia, qui la saison passée a récolté 13 buts et 10 passes pour un total de 23 points. On était en attente de ça. Écoute, Armia, Hudon et les sont 3 joueurs autonomes avec restrictions ayant droit à l'arbitrage. Leurs séances d'arbitrage ont été déjà planifiées. Là, je vous rappelle, Armia, c'était le 20 juillet. Charles Hudon, c'est le 2 août. Et Arturi Lekkonen, le 3 août. Dans le cas de Lekkonen, je pense sincèrement qu'on peut s'attendre au même genre de contrat parce qu'ils ont sensiblement les mêmes statistiques. Seule différence, Lekkonen étant plus jeune, sera joueur autonome avec restrictions. Donc, si jamais on a un contrat de 2 ans, demeurera avec... sous contrat, en fait, les droits appartiendront tout le temps, je vais faire une phrase complète, les droits appartiendront tout le temps aux Canadiens, mais dans le cas de Lekkonen, lorsqu'il termine, sera joueur autonome sans compensation, donc sera libre comme l'air et pourra peut-être regarder ailleurs, ou si jamais il connaît de bonnes saisons, eh bien, le Canadien pourra le signer et en mettre davantage et peser plus fort sur le crayon pour s'assurer des services de Joel Armia. Mais ce gars-là est vraiment un gars important parce qu'il trouve le moyen toujours de garder possession de la rondelle en fond de territoire. Et c'est ce qu'on a besoin chez le Canadien. Le Canadien joue ce genre de jeu-là. C'est-à-dire, faut contrôler la rondelle. On veut jouer un jeu qui est extrêmement rapide. Je le sais que c'est pas le plus grand marqueur de but. Plusieurs déploraient le fait de le voir sur l'avantage numérique. Mais vraiment, son échec avant, selon moi, est quelque chose d'assez exceptionnel. Dans le cas de Lekkonen, on peut avoir sensiblement les mêmes chiffres. Et là, au total, il reste 6 544 000 $ pour le Canadien.
Pour qui?
Ben, pour qui? En fait, ça sera pour Lekkonen et un peu de sûreté, à mon avis. La seule chose qu'il faut regarder, c'est que présentement, 24 contrats distribués pour le Canadien. C'est beaucoup. Ouais. Et 45 sur un total de 50. Fait que donc, est-ce qu'on voudra peut-être se laisser un peu plus d'espace? C'est
comme
là la question.
L'année dernière, puis l'année d'avant, c'était quoi? Pendant de longs mois, il y avait quoi un plafond? C'est-à-dire
un 8 millions disponibles.
8 millions disponibles.
Ouais, 8 millions
là,
disponibles.
Là, on est déjà à moins que ça.
Ah, définitivement. Puis là, il y a Arturi Lekkonen à signer. Fait que donc, il faut t'enlèves au moins un 2,5 qui sera retiré. À moins qu'on décide de donner un contrat à long terme à Arturi Lekkonen. Je sais pas comment on va fonctionner sur son dossier, mais 6 544 000 sont les sous disponibles pour le Canadien de Montréal présentement.
Excellent. Maintenant, si on se transporte à Wimbledon, Serena Williams passe en finale pour la 11e fois.
Oui, c'est une machine, Serena Williams. 11e fois en finale du côté de Wimbledon. Elle détient 23 titres du Grand Chelem en carrière. Elle a battu Strikova en 2 manches de 6-1, 6-2 en demi-finale. Et Serena Williams affrontera Alep en grande finale. Donc, Alep, c'est sa première fois qu'elle a la chance. Simona Alep, c'est la première fois qu'elle a la chance d'aller en finale du côté de Wimbledon. Donc, vous avez une joueuse qui a l'habitude de cette grande finale versus une joueuse qui, pour la première fois, participera à cette grande finale.
Mais qui pourrait surprendre.
Ben, Simona Alep a déjà été numéro 1 mondial. Je pense que Serena Williams pourrait connaître peut-être des moments difficiles, mais qui sait, elle possède quand même tout un tennis. Et que dire des hommes, du côté des hommes, là, on aura les demi-finales demain. En matinée demain matin, on aura Rafael Nadal qui va affronter Roger Federer. Et par la suite, Novak Djokovic fera face à Batista Agut. Voilà.
Qui va être en finale de Federer ou de Nadal, d'après toi?
Je dois favoriser sur gazon, je vais favoriser Federer. Mais c'est drôle, hier, j'avais une conversation avec Hélène Pelletier, je lui demandais, t'as vu l'usure du gazon?
J'ai écouté, oui.
Bon, l'usure du gazon change la donne. Elle me dit, j'ai l'impression qu'on ne... Lorsque ça s'est usé, on est plus comme sur terre battue. Est-ce que cette usure va donner avantage à Rafael Nadal sur Roger Federer? Mais Federer sur le gazon, selon moi, est dans une classe à part.
Ils peuvent en replanter ce soir.
Ils ont d'affaires être rapides.
C'est ça. Une petite question en terminant.
Oui.
Je lisais un article où est-ce qu'un entraîneur disait que lui, peu importe les trucs de dopage, il avait continué de donner des matières illicites à ses athlètes. Est-ce qu'on peut faire encore confiance à la Russie ou pas du tout?
Mais je pense qu'il y a un gros point d'interrogation. Honnêtement, il y a un gros point d'interrogation. Tu as vu tout récemment, en plus, on avait demandé à l'Agence mondiale d'antidopage d'aller collecter des informations. On a dû avoir un très long processus pour être capable de prendre possession des informations. Là, par la suite, on a dit, bon, on devait valider les outils que l'Agence mondiale d'antidopage utilisait pour aller chercher l'information. Et là, il semblerait que tout le monde est bien content et on a fait un bon travail. Mais, somme toute, dans ce texte que tu fais référence, c'est un entraîneur qui a admis avoir continué continuer ses activités en dépit de sa suspension à vie pour avoir enfreint de nombreuses règles antidopage. En fait, il a continué à coacher, s'est fait pousser la barbe, puis il a continué à être là. Et là, la Russie lui a dit, tu n'as pas le droit d'être là. Lui, il s'est senti un peu comme l'agneau sacrifié. Il dit, moi, je suis là pour mes filles, je suis là pour apprendre et montrer l'athlétisme. Je vais continuer à faire mon boulot. Moi, je dirais, quand on a regardé le documentaire Icarus sur Netflix, c'est difficile de faire confiance à la Russie.
Il faut voir ce documentaire que tu m'avais
regardé. Honnêtement, le sonore d'alerte, Grigory Rodchenkov, c'est lui qui a tout dit. Allez voir Icarus, vous allez mieux comprendre.
Je suis très d'accord. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.